Docteur Karen Tenenbaum, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes du côté d'Ottawa aujourd'hui, c'est bien ça?
C'est ça, capitale de notre pays.
Docteur Tenenbaum, vous êtes médecin gériatre, chercheuse à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, également professeur titulaire au département de médecine de l'UDM et bien d'autres choses. Aujourd'hui, on veut parler de comment les personnes âgées peuvent prendre davantage leur santé en main pour un meilleur impact pour eux, pour vieillir davantage en santé. Aussi, de la consommation, surconsommation de médicaments. On dit qu'à 65 ans, 9 Canadiens sur 10 prennent au moins un médicament par jour. Est-ce que ça vous apparaît beaucoup, ça?
Ça m'apparaît beaucoup. De l'autre côté, les conditions chroniques, les maladies chroniques augmentent avec l'âge. La statistique qui me choque plus, c'est que plus que 2/3 des personnes de 65 ans et plus consomment 5 médicaments ou plus par jour.
Oh, oui, là, ça commence à être beaucoup. Quel genre de médicaments consomment surtout les personnes âgées?
Mais il y en a qui sont nécessaires pour la santé. J'aimerais vous dire que moi, je crois beaucoup dans les médicaments. Il y a des médicaments qui sauvent les vies, qui sont complètement nécessaires pour la santé. Par exemple, les médicaments pour la haute tension artérielle. Il y en a plusieurs qui prennent des médicaments pour cela. Mais il y en a aussi qui prennent des médicaments, par exemple, pour l'estomac, pour l'acidité. Il y en a qui prennent des somnifères pour aider à dormir. Et ce sont plutôt les médicaments que, comme les somnifères, qui causent des effets secondaires, des chutes, des troubles de mémoire, des hospitalisations. Et c'est là où il faut poser la question, est-ce qu'il faut toujours les consommer?
Oui, et est-ce que c'est possible de réduire cette médication-là?
C'est ça. Je pense que nous existons dans une culture où on va visiter notre médecin ou notre pharmacien, puis on attend une prescription. Moi, j'aimerais lancer le défi qu'on commence à poser la question, est-ce que j'ai toujours besoin de chacun des médicaments que je prends ou est-ce que cette année, est-ce qu'on peut atteindre le but d'en enlever un?
Oui, je trouve ça assez assez drôle parce que vous parlez de défis et même vous dites que vous aimeriez que les médecins apprennent à déprescrire. C'est rare que l'on entende ça, docteur Tenenbaum.
Mais moi, j'adore le mot déprescrire. C'est un peu comme Shakespeare, hein? Prescrire ou déprescrire? C'est ça la question aujourd'hui. Comme j'ai dit, on commence, mais dans le passé, on n'a pas éduqué les médecins à déprescrire. Et donc, moi, je crois que les patients, nous-mêmes, moi, je suis patiente. On parle des patients comme ce sont vraiment d'autres personnes, mais nous sommes tous des patients à un moment ou un autre dans notre vie. C'est à nous d'avoir de l'empowerment pour commencer à poser la question, est-ce qu'aujourd'hui, on peut déprescrire?
Oui. Et peut-être que l'une de ces solutions ou des voies pour déprescrire, c'est de donner plus de pouvoir au patient lui-même.
Bien, le patient peut prendre son propre pouvoir. Je pense que le mécanisme de prendre des décisions ensemble, la collaboration médecin-patient, pharmacien, infirmière, travailleuse sociale, je pense qu'on existe dans un monde qui vraiment commence à changer si on le compare à il y a 50 ans ou quelque chose. Donc, moi, je soutiens tous les individus qui arrivent à leur médecin avec une liste de questions qui insistent sur les réponses et qui arrivent avec une liste de leurs médicaments. Oui. Peut-être même faire un peu de recherche sur leurs propres médicaments. Aller sur notre site web www.deprescribing.org et s'informer.
Oui. Lorsqu'on parle de réduction des médicaments, vous parliez tout à l'heure de somnifères. Ce serait peut-être un type de médicament qu'on pourrait penser diminuer ou même éliminer d'entrée de jeu parce qu'il y a des façons de dormir ou de mieux dormir qui existent.
Exactement, exactement. Moi, le sommeil est tellement important, mais il y a des études qui démontrent qu'une thérapie non médicamenteuse, c'est-à-dire la thérapie cognitivo-comportementale, c'est très long, est autant efficace sans les effets secondaires. Et cette thérapie-là, premièrement, ça combat le mythe qu'on doit dormir 10 heures par nuit quand on a 70 ans, surtout si on n'est pas très active ou si on dort, si on couche pendant la journée, il se peut que 5-6 heures, ça suffit, mais il y en a qui se couchent vers 9 heures du soir, ils commencent à s'inquiéter parce qu'on regarde l'horloge, 10 heures, 11 heures, on s'endort pas, on devient anxieux, inquiète parce qu'on s'endort pas, puis là, on veut prendre un somnifère. Imaginez si on restait actif jusqu'à 11 heures du soir, puis là, on allait se coucher. Probablement qu'on va s'endormir plus facilement.
Oui. Donc, il existe des thérapies alternatives pour qui sont appropriées pour les personnes âgées qui pourraient tenter de diminuer la médication.
Oui, Charles Morin, un grand chercheur au Québec, a produit un livre, « Vaincre les ennemis du sommeil ». Puis ça parle des différentes thérapies. La province de la Nouvelle-Écosse, leur gouvernement a monté un site web qui s'appelle en anglais « Sleep Well Nova Scotia ». Puis on peut même downloader une application comme dans les smartphones, les iPhones, pour nous aider à dormir.
Un autre pan de votre recherche et de votre pratique qui m'intéresse beaucoup, Dr. Karen Tenenbaum, c'est ce souhait de pratiquer une médecine qui est personnalisée. Oui, vous vous intéressez à comment on peut traiter la personne âgée selon son sexe, donc son genre, si c'est un homme ou une femme, et selon son âge. Et pour vous, on devrait attribuer de l'intérêt à ça.
Absolument. Alors, j'ai toujours le poste, je suis très chanceuse. Je suis directrice scientifique de l'Institut de la santé des femmes et des hommes des instituts de recherche en santé du Canada. Et les IRSC, comme on appelle cette organisation, reconnaît que les femmes ne sont pas les mêmes que les hommes quand on parle du métabolisme de leurs médicaments. Donc, par exemple, Santé Canada a émis un avertissement contre, bon, on revient toujours au somnifère, mais contre un somnifère disant que pour la même dose, pour la même pilule, les niveaux sanguins de ce médicament est presque 50% plus élevé chez les femmes que les hommes. Et le matin, ils ont moins de concentration puis peuvent avoir plus d'accidents d'automobile que les hommes. Et donc, la médecine personnalisée, c'est un peu poser la question, est-ce que je suis homme-femme? Quelle est ma taille? Comment fonctionnent mes reins? Est-ce que je prends d'autres médicaments et mon foie les métabolise tous en même temps? Donc, il y a un métabolisme moins efficace. Est-ce que j'ai une génétique qui me met à risque à des effets secondaires? Et là, avec toute cette information personnalisée, est-ce qu'on peut cibler les traitements aux patients dans une manière, je ne sais pas comment dire en français, pas un one size fits all.
Oui.
Comment on dit ça en français? Est-ce qu'il y a moyen de dire one size fits all?
Comment on pourrait le dire? Une taille pour tous ou personnalisée ou moins généralisée, c'est comme ça que je le traduirais. On parlait tout à l'heure de sensibiliser les spécialistes de la santé, Karen Tenenbaum, à déprescrire, mais est-ce que les médecins gériatres en l'occurrence, sont sensibilisés à traiter le patient selon son genre?
Pas autant que j'aimerais.
Oui.
Alors, les médecins spécialistes suivent les données de recherche. Et c'est très intéressant. En fait, je pense que historiquement, on excluait les femmes des études parce qu'on ne voulait pas qu'elles tombent enceintes pendant qu'elles testaient un nouveau médicament et qu'il y ait des effets sur le fœtus. Et donc, nous avons toute une culture, disons, avant les années 1990, où les femmes n'étaient pas incluses et on cherchait pas à comprendre s'il y avait des différences hommes-femmes dans le traitement médicamenteux. Alors, sans des données probantes, on peut pas vraiment recommander si bon pour les hommes et les femmes, cette pilule pour la tension artérielle, ça va bien, mais pour un autre médicament pour le diabète, c'est préféré que les femmes prennent une et pas l'autre.
Oui.
Alors, ça, c'est pourquoi c'est tellement important de subventionner des projets de recherche qui vont chercher à avoir des réponses pour mieux informer les spécialistes comment personnaliser les médecines et aider la santé de notre population.
Ah oui, c'est vraiment intéressant. Au même titre que lorsque l'on parle des personnes âgées, on a l'impression qu'ils sont tous dans le même groupe, mais j'ai l'impression que si on a 65 ans, parce que vous commencez à orienter vos études là, à partir de 65 ans et plus, Karen Tenenbaum, 65 ans et 90 ans, c'est pas la même chose.
Mais c'est pas la même chose du tout. Et deux personnes qui ont 85 ans peuvent être vraiment différents. Il y en a qui ont une perception, un tabou de stigmatisation contre le vieillissement.
Oui.
Et on croit que les personnes âgées sont fragiles et habitent dans l'institution, mais ce n'est pas le cas. Il y a 93% de notre population âgée de 65 et plus, ans et plus qui habitent à domicile. Mais il y a tellement de tabou contre le vieillissement, le tabou de la beauté. Est-ce que c'est vrai que les femmes qui ont des rides et des cheveux gris sont plus belles et spéciales? Non.
Oui.
Il y a des tabous, par exemple, conduite automobile. Je ne sais pas si vous avez vu quelqu'un qui conduit ou qui arrête à le stop sign et vous dit « Oh, c'est probablement vieux. »
Oui.
Mais ça peut être quelqu'un d'autre. On pense que les vieux comprennent pas la technologie, mais l'autre semaine, j'avais une dame de 92 ans qui argumentait avec sa fille si c'était mieux d'utiliser le FaceTime ou le Skype pour parler à ses petits-fils. Alors, honnêtement, je pense qu'il faut changer nos tabous contre l'âgisme. Il faut reconnaître que les hommes et les femmes sont différents et il faut investir dans la recherche pour mieux informer les traitements qu'on donne à tout le monde pour le bien vieillir.
Oui, et de briser ces tabous-là permettrait probablement une meilleure santé globale des personnes âgées à long terme.
Mais la santé globale, c'est la santé physique, mentale et sociale. Et moi, j'adore poser la question aux personnes qui sont plus vieux que moi. Qu'est-ce que vous pouvez m'enseigner?
Oui.
Vous êtes sage, vous avez beaucoup vécu. Aidez-moi.
Oui.
Alors, j'espère qu'on va reconnaître ça. Oui.
Docteur Karen Tenenbaum, vous êtes gériatre, chercheur à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, professeur titulaire au département de médecine de l'UDM et également, vous le disiez, directrice scientifique de l'Institut de la santé des femmes et des hommes, l'IRSC. Ça a été un grand plaisir de vous parler aujourd'hui.
Au revoir.
Au revoir.